comment est-ce que tu prévois le développement dans l'Est de Montréal, toi qui es là depuis un bon bout de temps? Là?
Montréal-Est a des volontés de développement puis des projets très intéressants. T'sais. Selon l'arrondissement, là, il y a comme possibilité d'une presque 10 000 portes dans l'arrondissement. Donc, le transport collectif est une clé. Là,
bonjour, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec François Claveau de Corporation Mainbeau. Merci pour ton déplacement aujourd'hui. François, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci Thierry. Pas un plaisir d'être là.
Super. Donc, François, tu es DG de Corporation Mainbeau, qui est un organisme, un OSBL, relié au milieu social ici au Québec, notamment dans l'Est de Montréal. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi Corporation Mainbeau, c'est quoi la raison d'être de l'organisme?
Oui, certainement. Corporation Mainbeau, c'est une entreprise d'économie sociale. On a environ 85 employés. On est dans l'immobilier communautaire. On est propriétaire de logements communautaires. On est aussi propriétaire de deux bâtiments commerciaux qui hébergent des organismes communautaires, donc des centres communautaires. Un principal là, qui a 90 000 pieds carrés, qui a une vingtaine d'organisations qui sont hébergées à l'intérieur de ça. On a, à l'intérieur de nos logements, on a deux résidences de personnes âgées, des logements familles. On est autour d'à peu près un petit peu moins de 1200 logements là, depuis l'an passé. On a fait une grosse acquisition de 720 logements. On a aussi une ressource intermédiaire pour des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. Donc, on est assez diversifié comme organisme communautaire. Le logement, l'aide à la personne de base, des résidences de personnes âgées avec très peu de services, là, un dîner par semaine, cinq dîners par semaine, pardon, pas d'aide à la personne. Et si on continue le continuum, bien, une ressource intermédiaire où des gens qui ne peuvent plus vivre chez eux s'en viennent vivre en chambre. Et là, on offre 24 heures sur 24 avec des préposés aux bénéficiaires. On aide que les gens soient bien dans leur milieu puis avec le plus d'autonomie possible. T'sais.
Donc, je devine que pour un organisme que le tien, amalgamer 720 unités de logement supplémentaires à un environnement et des services communautaires déjà en place, c'était une logique normal à l'époque de faire ça? C'était comme un réflexe normal?
Bien, quand on nous a approchés pour être propriétaire de ces 720 logements-là, on ne pouvait pas dire non. C'est que la Corporation Mainbeau a commencé à prendre possession, est venue au monde en 1998 pour prendre possession du centre communautaire qui était à l'origine, en 1934, une crèche, la crèche Saint-François d'Assise, qui a été abandonnée, qui a été achetée par le gouvernement en 1975. Les crèches, le gouvernement s'est occupé des enfants à partir de 1975, dans ce coin-là. Et en 1995, c'était un centre jeunesse. Et le gouvernement n'avait plus besoin. Donc, les organismes communautaires disaient on a besoin d'espace pour se loger. Donc, la Corporation Mainbeau a été créée pour être un peu un genre de bras immobilier pour le communautaire, les organismes communautaires. Et les 720 logements sont juste en face du centre communautaire de Mainbeau. C'est un grand quadrilatère, là. C'est 8 bâtiments de 90 logements, là, qui fait un carré, un pâté de maison assez grand. Donc, c'était assez difficile de dire non à ça. Donc, ça a été l'occasion. Est-ce qu'on était capable? Bien sûr, on avait déjà toutes les infrastructures. On avait à peu près 500 logements. Donc, c'est rajouté ces logements-là à notre parc avec du personnel qui travaillait déjà pour l'ancien propriétaire. Donc, on a tout embauché, le personnel qui était là. Bien sûr, c'est après ça, c'est toute l'administration, les finances, la comptabilité qu'il faut intégrer dans notre système. Et là, on est en train de le faire. C'est quand même ça. On est dans le troisième mois là, d'acquisition. Donc, ça se passe très bien. Mais c'est des défis quand même à tous les jours. Là. On ne manque pas de personnel. Mais disons que si on avait un ou deux de plus, peut-être qu'on regarde ça dans les prochaines semaines. Là, on pourrait intégrer ça puis que ça soit que les gens puissent être moins transpirés. Disons que ce serait plus agréable d'avoir peut-être une personne de plus à la comptabilité là, pour
aider un petit peu. Ouais. 720 logements, c'est quand même impressionnant. J'imagine aussi que dans ces 720 logements-là, tu avais déjà une clientèle qui utilisait les services qui étaient de l'autre côté de la rue, dans le fond. Là. Donc,
Oui, probablement. C'est sûr que nous, quand on est propriétaire du centre communautaire, on n'offre pas de service à la population. C'est plutôt nos locataires, c'est les organismes communautaires. Possiblement qu'il y avait des locataires. C'est sûr qu'il y a des locataires là, qui viennent faire des activités au centre. Là. Il y a beaucoup d'activités au centre communautaire. Là. Des activités de loisirs, des activités de développement social, des activités culturelles aussi. Donc, c'est assurément que c'est la 1500. On essaie entre 1500 et 2000 personnes. On ne sait pas encore combien exactement de personnes qu'il y a dans ces 720 logements. Est-ce qu'il y a des 5,5, 4,5, 3,5 studios? Donc, il y a beaucoup de monde quand même qui sont là. C'est certain qu'il y en a qui profitent là, de ce centre.
Intéressant, un beau mix de clientèle. Oui. Tu sais, des enjeux pour quand on opère des immeubles comme ça, il y a des enjeux opérationnels, mais j'aimerais ça commencer par comment s'est passée la transaction immobilière. Donc, 720 unités, c'est une transaction qui a pris combien de temps environ à faire à partir du moment que l'offre a été acceptée jusqu'à temps qu'on passe chez le notaire et qu'on transfère des titres? On parle environ de combien de temps?
On parle de 10 mois.
10 mois?
Oui. Okay. Mais les premières discussions ont eu lieu en octobre 2022. Et en novembre, le 2 novembre 2023, on devenait propriétaire. Mais l'offre d'achat est acceptée en janvier, début janvier 2023, donc jusqu'en novembre ou 2 novembre. Les discussions, ça s'est très bien passé rapidement. C'est sûr qu'un organisme communautaire devienne propriétaire de 720 logements à Montréal, on a absolument besoin de subventions. Sinon, ça ne sera pas du logement abordable. C'est certain. N'importe quel propriétaire privé ou un groupe d'investissement qui a racheté ça, il n'y aurait pas eu le choix d'augmenter les loyers. Bon, il aurait fallu qu'ils ne respectent pas nécessairement la loi ou les obligations, mais on sait comment ça se passe aujourd'hui. Pour ça qu'il y a beaucoup de momentum depuis quelques années. Il y a une crise du logement, tout le monde est d'accord avec ça. Ça nous prend du logement abordable pour toutes les populations, tous les niveaux de population, tous les niveaux de revenus. Alors, on a eu besoin de subventions. Le gouvernement a répondu oui. Instantanément, quasiment. C'est, tout le monde s'est dit on ne peut pas laisser passer 720 logements dans un coin d'un quartier Pointe-aux-Trembles qui est l'extrémité est de Montréal. Il y a une gare, la gare de Pointe-aux-Trembles qui est juste à côté, une éventuelle station du projet structurant de l'Est, l'ancien REM,
oui,
à côté. Donc, un endroit propice à la spéculation immobilière, évidemment. Donc, tout le monde a dit oui, Montréal, Québec, on dit oui, on donne des subventions. Ça prend un certain temps, mais tout ça s'attache parce que c'est quand même des gros montants. Là. C'est pour la Caisse d'économie solidaire, pour Montréal et peut-être pour le gouvernement du Québec aussi, dans les transactions immobilières communautaires, c'est la plus grosse là, depuis, je précise bien, dans les transactions communautaires. Là. Il y a des transactions privées qui sont beaucoup plus grosses que ça, mais on est dans les 100 millions là, de prix de vente, plus les frais, tous les frais qui tournent autour de ça. C'est un petit peu plus, on est dans les 110 millions là, de coûts de transaction. Donc, c'est évident qu'on a eu besoin de subventions du gouvernement, mais ça s'est très bien passé. Les réponses ont été rapides. Maintenant, après ça, que le politique puisse s'assurer que toutes les instances disent oui, puis dans la réglementation, dans le respect des vérificateurs généraux. Donc, ça a pris un certain temps là, pour que ça se conclue.
Puis dans la structure, parce que c'est très, très vrai, il y a deux enjeux. Même pour un propriétaire foncier standard qui a du multilogement, il faut être rentable. Il faut payer un prix de la porte qui fait du sens. Puis il faut être rentable au niveau des opérations annuellement pour rester avec un cash flow positif, pour avoir assez d'argent pour mettre de côté puis éventuellement réinvestir dans l'actif, etc. Donc, ce qui est intéressant de regarder ici un petit peu, c'est la structure financière. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu des subventions de Québec, il y a eu des subventions de Montréal, il y a eu du capital patient dans le projet. Et aussi, on a passé à travers avec le programme APH Elect Abordabilité pour aller essayer de scorer le maximum. Et pour être capable de répondre aux besoins financiers du vendeur qui avait besoin d'un certain prix de vente, mais que le prix de vente est très intéressant au niveau du prix de la porte, d'ailleurs, en ce moment passant. Là, c'est quand même une belle acquisition. En termes de prix de la porte, vous l'avez payé pas trop cher pour le marché. Mais probablement que pour garder les loyers bas, pour être capable d'aller chercher un financement adéquat, bien, on a dû avoir des subventions. On parlait des subventions d'environ de combien au niveau de Québec pour commencer?
Le Québec, c'est 20 millions.
20 millions quand même.
Oui. Montréal, 15 millions.
Oui.
On est allé chercher aussi une subvention dans le fonds d'innovation de la SCHL de un peu plus que 4 millions, 4,2 millions. Et on espère aller chercher une subvention d'environ 10 millions de la SCHL encore dans le programme co-investissement pour la rénovation des bâtiments, la réparation des bâtiments. Donc, ça fait quand même pas loin de 50 millions de subventions là, sur le coût total. Là.
Donc, presque la moitié du coût d'acquisition. Oui. Mais il y a un projet de rénovation relié à ça.
Exactement, oui, c'est ça. Là, 10 millions, c'est pas pour des réparations là, dans les 5 prochaines années. Là.
Donc, il y a un plan quinquennal de rénovation. OK, c'est intéressant. On pourra revenir à ça parce que le volet entretien et tout ça est très intéressant de voir comment est-ce que vous l'avez échelonné. Donc, près de 50 % de subvention. votre prêt à PH Select, vous l'avez obtenu déjà?
Oui.
Donc, ça c'est déjà fait. Donc, déjà là, on le sait que dans ce programme-là, bien, pendant 10 ans, on doit garder des logements abordables. Mm-hmm. C'est quoi votre moyenne de loyer actuellement? Par exemple, là, vous avez toutes sortes
En moyenne, on est autour de 1000 $ en moyenne. Mais il faut comprendre que dans cet ensemble immobilier-là, il y a plusieurs choses qui sont incluses dans le loyer. Et donc, ce qui fait en sorte que les loyers, malgré tout, sont encore plus abordables qu'on le pensait pour certains, pour la majorité. Il y a l'électricité qui est incluse, l'eau chaude, le chauffage, parce que c'est l'électricité à calorifère avec des thermostats dans chaque pièce. C'est juste qu'il y a juste un compteur électrique par bâtiment.
Ah, OK.
C'est juste pour ça que tout est inclus, parce que sinon, c'est pas un chauffage central.
Ouais.
L'eau chaude est centrale. Ça, okay. On est très heureux de ça, parce que changer 720 réservoirs d'eau chaude à tous les 10 ans, ça aurait été une opération pas simple et coûteuse. Donc là, c'est des réservoirs centraux. Donc, c'est avec tout ce qui est inclus. La carte de base est inclus. Donc, je reviens. L'électricité, l'eau chaude, l'éclairage, le chauffage, le câble de base. Le stationnement extérieur est gratuit, puis il y a un espace de rangement, des espaces de rangement pour chaque logement à l'intérieur, c'est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est le stationnement intérieur. Là, il y a 35 places de stationnement dans chaque bloc à l'intérieur, en sous-sol. Ça, c'est pas gratuit, là, mais le prix est quand même assez bon. Donc, en moyenne, 2000 $ on enlève facilement 150 $ par mois. On se retrouve avec une moyenne de 850 $ par logement. Bon, il y a des 5,5, l'ancien propriétaire avait commencé à vouloir mettre les loyers au marché.
Ouais.
Donc, de façon, on va dire qu'au Québec, c'est légal. Un propriétaire peut proposer l'augmentation de loyer qu'il veut, c'est au locataire à accepter ou à refuser. La majorité des locataires, il y a eu 100 logements à peu près qui ont été augmentés au loyer ici. Donc, il y a des 5,5 qui sont à 1450 aujourd'hui.
Ouais.
Mais il y a des 5,5 qui sont à 900 $ à 1000, 1200, parce que le propriétaire, autant il a augmenté beaucoup quand le logement se libérait, il augmentait très peu quand s'il y a un locataire resté.
Okay.
Vraiment, là, 1,5%, 2%, maximum 3%, qu'on a vu des augmentations dans les années récentes, mais il se reprenait quand un logement se libérait. Nous, ce n'est pas notre stratégie. Nous, ça va être de s'assurer que tout le monde augmente de façon égale, qu'un logement se libère ou pas, le prochain locataire, si un logement se libère, le prochain locataire va avoir la même augmentation que si le locataire était resté là. Donc ça met un petit peu de stress dans le montage financier, mais c'est aussi pour ça qu'on a eu des subventions, pour être sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, les loyers vont être encore plus abordables par rapport au marché. Le marché va continuer à augmenter à un certain rythme, et nous, on va augmenter à un rythme plus bas que le marché, donc à long terme, ces logements-là...
Puis quand vous faites votre projection, est-ce que vous faites une projection sur 5 ans, 10 ans, 15 ans au niveau des revenus dépenses? Comment vous calculez?
On l'a fait sur 20 ans.
Sur 20 ans.
Parce qu'on a deux prêts patients. Tu l'as dit tout à l'heure, Thierry, on a deux prêts patients. Un qui va être remboursable après 10 ans, puis un deuxième qui va être remboursable après 20 ans. Partenaire financier New Market Funds, qui a travaillé beaucoup dans la transaction, qui n'a pas été seulement qu'un partenaire financier là, qui a mis un 5 millions de capital patient. Ils ont vraiment travaillé, bien, c'est eux qui nous ont approchés par l'entremise de notre organisme communautaire là, qui nous a passé la balle, là, la solide, l'organisme de Châteauguay, mais qui sont à Drummondville, qui sont à Montréal, qui sont un peu partout, là, qui sont très solides comme organisme. Quand ils ont vu que les logements étaient juste en face de notre siège social, le centre communautaire de Maybourg, bien là, ils nous ont appelés, ils ont dit à New Market Funds, appelez donc Corporation Maybourg, là, ils sont juste en face, fait que c'est comme ça que c'est arrivé.
Puis New Market Funds, qui n'est pas un joueur à la base du Québec.
Non, mais ça fait, je pense que c'est le troisième projet quand même.
Troisième
Québec,
projet.
Le troisième projet qu'ils font, puis il y en a d'autres là, à travers. Ils visent à s'installer, à faire des projets d'acquisition comme ça, d'aider des organismes communautaires à faire des acquisitions de logements privés pour mettre dans le parc abordable. Et puis ils sont dans les, je pense qu'ils visent les trentaines de plus grosses métropoles, villes
au Canada.
Ils ont beaucoup de projets. Très intéressant comme partenaire en termes d'aide au niveau de la négociation, du montage financier. C'est eux qui l'ont fait d'ailleurs, le montage financier qui l'ont suffi. Ils ont négocié avec Desjardins, avec la ville, avec nous. Enfin, à chaque semaine, on avait des rencontres avec tous les partenaires qui étaient disponibles. Ça a beaucoup aidé aussi. On pourra en parler ensuite. Donc, pour venir au logement, pour garder les logements abordables, malgré les subventions qu'on a eues, on n'a pas pu réduire les logements là, qui sont, à notre avis, trop élevés. les 1450 ou les 1250, à notre avis, c'est selon nos cibles à nous, c'est trop élevé, mais on n'a pas les subventions suffisantes pour dire on va les réduire, on va les garder comme ça. Mais comme tu as dit tantôt, APH Select, oui, nous oblige à garder les logements abordables, il nous autorise un certain pourcentage d'augmentation de loyer. Ça, c'est APH Select. On a aussi la subvention que Québec a donnée de 20 millions, c'est dans le programme, c'est les mêmes critères que le nouveau programme. Programme d'habitation abordable Québec, le programme FAC. Oui. Donc, on doit aussi avoir un maximum. Les loyers doivent être un certain maximum et les gens qui vont habiter dans ces logements-là ne peuvent pas gagner plus que X. Au niveau des revenus familiaux, ils sont limités aussi. Donc, on a un exercice pas simple quand un logement se libère. Est-ce qu'on peut l'augmenter, ce logement-là? Et de combien il faut respecter ces critères-là.
C'est intéressant de regarder, mettons, un 5,5, là, juste parce qu'il y a des gens qui vont être très curieux de voir comment est-ce que ça s'opère. Mettons un 5,5 à 1 200, on enlève un 200 de frais d'énergie, puis peut-être un 30 de frais d'Internet. Fait que là, on est déjà rendu...
C'est sûr qu'on dit un 200 nous, pour l'énergie. Pour un 5,5, là, on a arrondi à 200 qu'on a calculé à peu près pour réduire. Donc, c'est à peu près... Donc, un 1 200, bien, la personne, dans le fond, paye 1 000. T'sais.
1 000, puis là-dedans, on a combien d'occupants en moyenne? 5?
Dans un 5,5?
Oui, donc 2-3 enfants, 2 adultes, ce genre
On a beaucoup de 5,5 qui sont occupés par des couples âgés.
OK.
Peut-être un enfant... l'ancien propriétaire avait comme stratégie là, pour ça, il y a 8 blocs. Il y a 2 blocs qui étaient comme réservés principalement pour des personnes âgées. Il y a même des gens, point autant, qui pensent que tous ces logements-là, c'est pour des personnes âgées. Alors que, non, il y a plein de familles. Mais il y a 2 blocs où c'est plus réservé à des personnes âgées. Donc, il y a 25,5 dans chacun des blocs. Donc, on parle de 45,5 qui sont occupés par des... On va changer ça progressivement. Ça fait partie du deuxième prêt patient. Fondation Chagnon,
oui.
Au bout de 20 ans, il faut les rembourser.
Oui.
C'est pour ça qu'on a fait le proforma sur 20 ans. La Fondation Chagnon, qui donne beaucoup là, pour différents programmes au Québec, dont l'orientation, je ne veux pas dire n'importe quoi sur leurs objectifs, mais c'est beaucoup autour de la famille. Donc, nous ont demandé, quand un logement va se libérer, un 5,5 va se libérer, êtes-vous capable de le rappeler par des familles? On s'est engagé à ça. Donc, tranquillement, on va faire en sorte que quand un 5,5 va se libérer, on ne commencera pas par les 2 blocs qui sont réservés principalement par les personnes âgées, mais dans les autres blocs, s'il y a des gens qui sont seuls ou qu'il y a peu de monde dans un 5,5 bien, et qui quittent, ou on va peut-être les encourager à prendre un 4,5 qui va coûter moins cher que leur 5,5 puis libérer des 5,5. Donc, tranquillement, ça fait partie.
Est-ce que tu peux nous donner une petite explication de ce qu'est le capital patient pour nos auditeurs?
Mm-hmm.
Vous expliquez, bien, là, il y a une question de... donc, c'est un prêt qui est donné, une subvention, un prêt qui est donné sur une période de temps, mais comment est-ce que les intérêts sont payables, pas payables?
Les intérêts sont pas... C'est ça. C'est un prêt patient, dans le fond, c'est que ça nous aide, c'est que le capital, nous, on a fait l'acquisition. La Corporation des Bourgs a acheté 720 logements sans mettre aucun sou dedans. Ce qu'on a dit au gouvernement, nous, on va mettre notre expertise, notre expérience, nos valeurs, pour garder ça du logement abordable, prendre soin des bâtiments, prendre soin des locataires, c'est ça qu'on va mettre. Mais le capital, on ne l'a pas. Donc, les deux prêts patients sont venus compenser ce capital-là, les subventions, bien sûr. New Market Funds, au bout de 10 ans, on les rembourse intégralement. Donc, on réemprunte sur le prêt principal, Desjardins. La Caisse des communes solidaires et Desjardins nous ont prêté un prêt principal. On rembourse pendant 10 ans le capital intérêt. Et au bout de 10 ans, on réemprunte pour pouvoir rembourser le New Market Fund. Mais à chaque année, 85 % de nos liquidités, on les donne en pré-remboursement au capital patient. Donc, c'est un petit peu comme si, bon, techniquement, là, c'est pas tout à fait un remboursement d'intérêts, mais c'est comme ça que c'est calculé. Là. C'est une partie des intérêts qu'on rembourse. Enfin, bref, au bout de 10 ans, on regarde tout ce qu'on a donné. Donc, si au bout de 10 ans, je prends des chiffres... pour l'expérience. Au bout de 10 ans, on doit 10 millions à New Market Funds.
Ouais.
Et qu'on a donné 3 millions pendant les 10 ans avec les liquidités qu'on a dégagées, bien, il faut réemprunter 7 millions. Puis on donne 7 millions à New Market Funds, puis on les rembourse. Et on va faire la même mécanique avec la Fondation Chagnon. À l'an 11, c'est la Fondation Chagnon qui va recevoir 85 % de nos liquidités. Puis à l'an 20, bien, si on leur doit à eux aussi 10 millions, et on leur a donné 3 millions pendant les 10 ans, on réemprunte encore sur le prêt principal. On rembourse la Fondation Chagnon. Et après, pour les 30 prochaines années, parce qu'on a un prêt sur un terme de 50 ans, avec l'APH Chalet, qu'on est à la 50 ans. Là, on est autonome, on est seul, et l'équité qu'on va pouvoir dégager, le remboursement de capital qu'on va faire chaque année, là, on va pouvoir s'en servir pour faire les réparations qui auront lieu dans 20 ans, qui aura dans 20 ans, ou prendre soin du bâtiment.
Intéressant. Puis dans les prochains 20 ans, qu'est-ce que tu vois comme dépenses majeures à faire? On parle de toiture, on parle de fenêtres, oui. On parle de ces genres d'éléments.
On ne parle pas de fenêtres pour le moment. On ne parle pas de choses esthétiques. Mais c'est possible qu'on si on a une subvention qui nous permettrait de changer les fenêtres et les portes, c'est des portes d'aluminium, des fenêtres d'aluminium. C'est sûr, certains locataires, s'ils écoutent ça, ils vont dire « Ah non, ça ne va pas si bien que ça, ma porte. » C'est sûr qu'ils ne vont pas tout bien, mais c'est quand même d'origine.
Oui.
Le bâtiment a été construit en 1975. C'est des équipements d'origine. Mais on se dit, on va changer les toits. Les 8 toits sont à faire dans les 5 prochaines années. On va en faire un, là, cette semaine ou la semaine prochaine, ça va commencer. Il y en a qui étaient vraiment dû. Donc, dans les 5 prochaines années, on fait les toits, on va réparer des balcons, on va réparer ce que le bâtiment a besoin d'être réparé pour la sécurité du bâtiment. Ce qui est esthétique, on va attendre. Si on est capable de le faire dans les 20 prochaines années, on le fera, mais sinon, ça va être dans les 20 suivantes. On va étirer, sans mettre en sécurité
les
locataires ou l'intégrité du bâtiment, on va changer ça. Les ascenseurs. L'ancien propriétaire avait déjà commencé, il y a un ascenseur dans chaque bâtiment. Très intéressant comme bâtiment. C'est des bâtiments qui sont presque plein pied, qui ont chacun une rampe d'accès là, pour les deux, les trois, quatre marches là, qu'il y a à compenser. 4 étages, contrairement à ce qui est beaucoup construit là, au Québec, là, des 3 étages et demi, avec on descend pour aller dans le demi-sol ou on monte pour aller à l'étage.
Oui.
Là, à part les 3-4 marches d'entrée, mais qu'il y a une grande rampe, là, tout à fait accessible, il y a un ascenseur en plus là-dedans. Donc, il y a trois ascenseurs qui ont été changés. On en change 2 autres en 2024. On commence là aussi, ça aussi, là, pour le prochain. Puis après ça, si les pièces sont au rendez-vous, on va continuer en 2024-2025. Les 8 ascenseurs ont été rénovés. Donc ça, c'est les travaux là, majeurs là, qu'on voit là, par des petites réparations ici. Là.
Comment est-ce que les locataires ont accueilli votre arrivée comme organisme, comme propriétaire?
Mais ce qu'on entend de plus en plus, c'est que les gens sont contents. Je pense qu'il y en a qui appréciaient l'ancien propriétaire. Bien sûr, c'est sûr. Il y en a qui, ça fait une dame là, qui a été interviewée par Radio-Canada là, lors de la transaction. C'est 45 ans qu'elle est là. 45 années, donc elle doit être contente de son logement. En passant, elle paye 775 $ pour un 4,5.
Wow.
Donc, on voit comment l'augmentation a été
très, très minime.
Très, très minime à chaque année. Donc, les locataires sont très heureux. Le personnel en place sont très, très heureux de voir, je pense, pour différentes raisons, mais entre autres, c'est une entreprise du Québec. Francophone. Maintenant, toutes les transactions se passent en français, alors que l'autre compagnie, c'est une compagnie de Toronto. Tu sais. Il y a beaucoup de choses quand même que les gens utilisaient comme outil. La comptabilité, bien, c'est en anglais. Tu sais. Puis, bon, je pense que c'est une petite chose. Tu sais. Ça ne leur empêchait pas de travailler très, très bien, là, mais il y a quand même un petit plaisir. Là, quand t'es,
peux-tu nous parler du propriétaire, d'ailleurs?
Ouais.
C'était quoi la relation avec le propriétaire puis comment est-ce que ça s'est passé au niveau des intervenants?
Oui, moi, personnellement, j'ai pas eu affaire avec le propriétaire. On a eu un représentant vers la fin. C'est beaucoup la firme d'avocats, TCJ, qui négociait avec leur avocat. Beaucoup de ça. New Market Funds aussi, qui ont parlé un petit peu au début avec les propriétaires. Mais on n'a pas vraiment eu affaire avec les propriétaires. T'sais. On a fait notre travail de vérification diligente au niveau des bâtiments, au niveau des finances. Et là, vers la fin, à partir de l'été, parce qu'on devait devenir propriétaire en juin, en juillet, en août, puis ça s'est étiré. On sait que la PHLX, il y a eu des délais aussi un petit peu plus à partir de l'été. Puis il y a eu différentes choses à mettre en place là, avec le Québec, avec Montréal, pour arriver tout ça en novembre. Mais le propriétaire était très patient. Ça, on peut reconnaître là, que... Bon, c'est sûr que c'est...
Une longue transaction, dis-moi. C'est une transaction normale.
Tant mieux, mais comme il s'attendait à ce qu'on soit propriétaire en juillet, il a attendu jusqu'en novembre, puis il a été quand même patient parce qu'il n'y a pas eu de coûts supplémentaires, il n'y a pas eu d'impact. Là, il a accepté d'être patient. Donc, je pense qu'ils ont bien pris soin des bâtiments, de façon générale. Là, ils ont fait un peu comme n'importe quel propriétaire. On dit, je pense que l'intégrité des bâtiments, peut-être un petit peu qu'il y aurait peut-être des toits qui auraient pu être changés avant. Ils ont fait des réparations, un petit peu trop. Il y a des choses au niveau du béton qui aurait pu être réparé, mais disons qu'on l'a vu quand on a fait l'inspection. On a d'ailleurs négocié un petit peu de prix d'achat à la suite de la vérification diligente, là, il y a eu une baisse quand même du prix là, de 3 millions de dollars pour compenser certains.
C'est quand même un terrain qui est intéressant. Est-ce que tu as des plans de. Est-ce que tu vois un plan de développement du site pour le densifier à moyen et long terme?
À moyen terme, d'ailleurs, l'arrondissement aimerait bien ça que le site soit densifié. La Fondation Chagnon nous l'a demandé de leur faire un rapport dans les 4 prochaines années sur la possibilité de le faire. L'ancien propriétaire, Greenwin, avait prévu faire un 9e bloc.
Ouais.
Les plans, apparemment, avaient été commencés. Donc, en plein centre du bâtiment, là, en plein centre du complexe, là, il y a tout à fait une possibilité là, de faire quelque chose.
On parle
là.
De combien de logements supplémentaires environ?
Ah, juste ça, on ne l'a pas regardé.
Non? Parce qu'on est dans le PMAD. Vous êtes régi par le PMAD. On est dans une zone TOD, à moins d'un kilomètre d'une gare. Mm-hmm. Fait que la densification est déjà réglementée. Fait que ça va être intéressant de voir. Beaucoup d'investisseurs immobiliers cherchent ce genre de pépite d'or, de dire « je peux le développer encore ». Déjà dans un endroit qui est densifié. Fait que c'est très intéressant.
Il faut comprendre quand même que la densification qu'on fera, puisqu'on souhaite le faire, ça n'affectera en rien le montage financier qui a été fait pour les blocs
existants.
Ça ne viendra pas aider nécessairement le montage financier. C'est ça. Donc, ça va être un projet qui va devoir être autonome en soi.
Donc,
on va voir selon les programmes qui peuvent être mis en place, l'accélération. Ça va être quelque chose qu'on va regarder. Au niveau du plan d'urbanisme, l'arrondissement souhaite qu'on densifie. Est-ce qu'on est capable de faire plus que 4 étages? Ce serait intéressant. En plein milieu, de faire une tour, quelque chose. Il y en a beaucoup à Montréal, des tours. Il y a des gens qui sont pros. Des tours en hauteur. Bon, l'arrondissement s'ouvre de plus en plus. Mais 6, 8, 10 étages, est-ce que ça peut être plus? Est-ce que c'est raisonnable? On n'a pas encore réfléchi avec nos architectes là, à cet aspect-là. Alors, ça fait 3 mois qu'on est propriétaire. Mais effectivement, il y a possibilité de densifier le site. Puis je vais répéter ce que François Gigard, le directeur général de Solide, qui nous a passé le POC là, sur la transaction, mais disait à un moment donné, c'est intéressant de faire de l'acquisition de bâtiments pour garder l'abordabilité, mais c'est aussi intéressant parce que ça nous permet d'avoir du territoire. Fait que si dans 45 ans, dans 50 ans, il faut démolir des bâtiments, on est propriétaire de ce territoire-là. Donc, on peut faire quelque chose, on pourra faire quelque chose d'intéressant à long terme. À très long terme. C'est un aspect intéressant de penser permettre à des gens d'accéder maintenant à du logement abordable puis à le maintenir. On se dit, bien, à très long terme, 50, 100 ans, on aura la possession du territoire. Ça fait un petit peu guerrier de dire comme
non,
ça.
Non, mais c'est ça, c'est vrai.
C'est quand même.
Ça va vouloir être très cher. Tu sais, déjà, si je regarde quelqu'un qui veut faire l'acquisition immobilière de juste un terrain pour bâtir du multilogement, on le calcule entre 15 000 et 30 000 $ la porte, le coût du terrain. Déjà, tu peux mettre 100-150 portes, puis que tu es dans un zonage qui le permet, c'est déjà comme une plus-value au prix d'acquisition. Ce que je trouve intéressant dans ce dossier-là, le prix de la porte, la densité, puis la possibilité de leur densifier. Comment tester du jour au lendemain, on est déjà en opération, on a des immeubles en gestion, plutôt du côté commercial, on fait de la résidence pour personnes âgées, etc., avec sans service. Et du jour au lendemain, comment est-ce que l'équipe réagit? Parce que vous êtes une équipe qui est formée, puis on rajoute 720 unités du jour au lendemain en gestion. Comment est-ce que tu fais pour intégrer ça aussi rapidement?
Ça fait peur à l'équipe.
Oui.
Quand on a commencé à discuter en novembre 2022, l'équipe s'est dit « Oh! » Puis la manière que je les ai rassurés en disant « Écoutez, il y a un propriétaire, il y a 13 employés, on change de propriétaire, les 13 employés sont encore là. » C'était un petit peu simpliste parce que, bon, la tenue de livre se faisait à Toronto, là maintenant, ça se fait chez nous. Donc, on a embauché une personne de plus, on a promu quelqu'un à l'interne comme contrôleur adjointe. Une contrôleur adjointe, un technicien comptable supplémentaire, et notre directrice des finances et comptabilité a fait beaucoup d'heures. Elle a fait beaucoup d'heures avec son équipe l'année passée, et elle en fait encore beaucoup, parce que là, c'est vraiment l'intégration, le logiciel de gestion immobilière, tu sais, à apprendre au personnel, qui est très facile là, pour faire de publicité pour OPM, mais c'est le logiciel qu'on utilise, fait que le personnel qui était en place à la Roussillière, ben, l'utilise, puis il le maîtrise déjà, tu sais. Ils vont le maîtriser de plus en plus, puis ça va être même encore plus d'efficacité. Mais on a réussi, on s'est dit, ben oui, on l'a fait en 2014. En 2014, on a connu une autre croissance assez forte. Là. On travaillait sur un projet de 174 unités, puis on a acquis 114 logements en 6 mois. T'sais. Donc, cette année-là, on se préparait depuis une couple d'années pour les 174, qui était une résidence personnes âgées de 126 logements et une la ressource intermédiaire de 48 chambres.
À Pointe-aux-Trembles aussi.
À Pointe-aux-Trembles aussi. Oui, tous nos bâtiments sont, sauf un 67 logements qu'on a pris possession en novembre 2022. On a tendance à l'oublier, lui. C'est moi, 67 logements.
C'est pas si gros que ça.
Mais c'est un bâtiment neuf avec accès logis.
OK.
Ouais. Dans Tétrouville. Donc, pas très loin de Pointe-aux-Trembles. En fait, notre territoire de développement, pour le moment, on se dit à l'est de l'autoroute 25, entre le fleuve et la rivière des Prairies. Donc, c'est le territoire qu'on pourrait développer. Là. On pourrait aller ailleurs. On a des partenaires qui sont ailleurs. S'ils ont besoin d'aide, s'il y a des projets. Et de même que c'est notre territoire à nous, c'est-à-dire c'est le territoire que nous, on s'est donné. C'est pas notre territoire. S'il y a d'autres organismes qui viennent développer sur le territoire, ils sont les bienvenus. Là. C'est pas une exclusivité. Vous nous appelez si vous venez. D'ailleurs, il y en a qui viennent développer. Puis, je parle des organismes communautaires, puis dans le quartier. Voilà, c'est le territoire qu'on a. Je ne suis pas sûr que j'ai bien répondu à ta question,
oui,
mais comment
est-ce
qu'on a intégré ça? Ça se fait encore, là. C'est pas encore, comme je disais au début de l'entrevue, je pense qu'on a besoin de quelqu'un au niveau des finances et comptabilité supplémentaires là, pour que ça soit...
Puis vous êtes bien encore, pour utiliser un terme qui est un anglicisme, « backé » encore dans New Market Fund, par, j'imagine, certains professionnels qui gravitent autour de vous, là, qui viennent vous conseiller dans la structure financière, comment gérer ce truc-là.
Bien, New Market Fund va rester impliqué pendant les 10 ans.
Oui.
Ils ont un siège sur le conseil d'administration parce qu'on a créé une nouvelle entité qui soit propriétaire. On a appelé la Société immobilière Mainbourg, qui est un apparenté avec la Corp Saint-Bourg. Sur les 5 sièges du conseil d'administration, il y en a un à New Market Fund, puis il y en a 4, c'est Corporation Mainbourg. Puis on a créé un comité de gestion. Qui était demandé par nos partenaires financiers. Tous les 3 mois, le premier comité va se réunir, c'est tout neuf, hein? Le premier va se réunir le 20 février prochain, la première rencontre du comité de gestion va se réunir à tous les 3 mois pour regarder la location, comment est-ce qu'on loue les logements, comment on prend soin des bâtiments, quelle rénovation qu'on a faite, est-ce qu'on suit les budgets. Donc, Desjardins, bien sûr, vont jeter un œil là-dessus pour superviser les exigences de la ICHL, les exigences du FAC. Donc, on est assez bien entouré, là, puis on a l'expérience là, quand même de gérer. On gérait déjà 500 logements depuis. On n'avait pas 500 en 2008, mais on a commencé en 2008 à faire de la gestion résidentielle. Gestion immobilière en 2003, mais juste pour des logements en 2008. Fait que oui, l'équipe va se mettre en place. Là, c'est, pour,
Puis au niveau de ta clientèle actuelle, je pense qu'on pourrait finir avec une dernière question après, mais au niveau de ta clientèle actuelle locataire, est-ce que tu as beaucoup de travailleurs qui travaillent dans l'Est de Montréal ou est-ce que tu as beaucoup d'étudiants qui se rendent jusqu'à Pointe-aux-Trembles pour habiter?
On n'a pas beaucoup d'étudiants. Non, on n'a pas de mouvement d'étudiants parce qu'il n'y a pas de cégep à Pointe-aux-Trembles. Il y en a un à Repentigny. Les gens pourraient traverser, mais se prendre une auto. Le transport en commun, ça s'est amélioré, mais c'est déficient là, à Pointe-aux-Trembles. Partir de Pointe-aux-Trembles, c'est en aller, par exemple, à l'Université de Montréal, c'est plus qu'une heure, une heure et quart probablement, là, une heure et quart, une heure et demie. Disons, c'est difficile de rentrer dans Pointe-aux-Trembles à l'heure de pointe. Et les autobus sortent. Certains autobus express, ça sort de Pointe-aux-Trembles, mais rentrer dans Pointe-aux-Trembles, on a quelques employés qui habitent les quartiers Rosemont, un peu plus centraux. Là, ça prend une bonne heure, là, une bonne heure et quart à s'en venir, là, prendre le métro, l'autobus à partir du métro. Bixi est installé dans Pointe-aux-Trembles depuis peu. Il y a la navette fluviale qui part de Pointe-aux-Trembles jusqu'au Vieux-Port, pas très loin d'ici. D'ailleurs, donc ça va dans les deux sens, celle-là. Mais il y a peu de gens qui vont rentrer dans Pointe-aux-Trembles en transport commun. Ça vient en auto. Donc,
clientèle très locale.
Clientèle locale. Pour les personnes âgées, ça peut venir d'un peu partout. Les locataires, ils peuvent venir un peu partout, mais c'est pour les étudiants, c'est pas une clientèle. Là, et les logements sont quasiment tous loués là, sur les... 1186, pour être précis. Là, il en reste peut-être 5, 6, 7 à louer, là, mais ça, bon, il y a comme une rotation quand même.
Là, c'est un taux naturel, peut-être 2% d'inoccupation. Ouais. Intéressant. Puis, toi, comme gestionnaire, à travers tout ça, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un d'autre, un autre gestionnaire, pour une acquisition immobilière aussi importante que ça, y a-tu un point qui te vient en tête, un enjeu majeur que tu avais, peut-être avoir eu quelqu'un, avoir eu ci ou ça, ou ça s'est tout bien passé tout le long de la transaction?
Ça s'est bien passé. Je te dirais, je vais me donner le conseil à moi-même et à mon équipe de gestionnaire. Soyons prêts pour la prochaine.
Pour la prochaine.
Parce que des acquisitions, ça vient vite.
Oui.
Sinon, on travaille sur des projets de construction. Et c'est ce que je dis à mon équipe. dit, François, pas tout de suite, quelqu'un laisse-nous. Ben, je dis 3-5 ans de projet de construction, donc on va avoir le temps de voir venir.
Ouais.
Mais s'il y a une acquisition qui se présente, qu'on ne peut pas refuser, on va devoir le faire. On se prépare tout de suite pour dire, bon, c'est pour ça que quand je parlais d'avoir une personne de plus en comptabilité, ça se peut que ça va être. Elle ne s'ennuiera pas. On va y faire faire des choses, mais il faut se préparer à l'avance. Il faut avoir le personnel nécessaire à l'avance pour pouvoir faire ça, pour faire ces acquisitions-là. Bien sûr, là, on a engagé notre premier directeur du développement,
oui.
Qui est rentré en poste début janvier. Donc, c'est les équipes, quand je le présentais, ah, toi, tu vas nous donner du travail supplémentaire, là, un peu à la blague, mais sérieux, ouais. Une petite partie sérieuse quand même. Je disais, écoutez, on va engager du monde. Et ça prend du monde à l'avance pour être prête à s'organiser, préparer tous les documents. Je pense qu'il faut, il faut pas négliger l'aspect. C'est des choses qu'on peut pas voir à l'avance. Là. Même si le propriétaire nous a transmis beaucoup d'informations, ben, il y en a qui ont oublié. Ils ont oublié des petites informations, pas grand-chose, mais tu sais, par exemple, c'est assez rare que ça arrive, mais on a appris en début novembre qu'il y avait 2 ou 3 locataires qui avaient déjà payé leur loyer sur l'année. T'sais.
Oui, des petites surprises de gestion.
Ah, ouais. Le propriétaire, il nous doit quelques mois de loyer.
Ah,
oui,
parce que là, ouais. Des oublis sur 700 000.
Mais là, c'est normal, ouais. Ça peut être normal. Ouais. Je pense que Greenwin a 25 000 portes, si ouais. Je ne me trompe pas. Ouais. Mais ça se peut, c'est parfait. Tu es propriétaire, ton locataire te paye pour un an. C'est assez rare qu'un locataire paye son loyer sur un an. Je pense qu'il y en a 2 ou 3, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait que c'est sûr que ce n'était pas des choses, parce que c'est une petite anecdote là, pour dire qu'il y a toujours des choses là, qu'on apprend. Fait qu'il faut être prêt à l'avance avec tout ce qu'on s'est préparé. Correctement. On est bien qu'on choisirait peut-être un conseil un peu spécial, mais si c'est possible, tu sais, de pas acheter de pas notarier en juin-juillet, tu sais.
Oui, dans la période
de vacances, là.
Ah oui, pendant les vacances.
Tu sais, juste prévoir quand même que le six mois, un an, ça serait, tu sais, au Québec, avec tu sais, les vacances de Noël, les vacances d'été,
ouais.
C'est pas un bon temps, mettons, à moins que tout le monde, vous mettez vos vacances en stand-by, mais parce que tu ne sais pas exactement quand est-ce que tu vas notarier. Hein? C'est aussi une surprise, là, tu dis, quand est-ce que tout va se mettre ensemble et qu'on va pouvoir vraiment notarier. C'est, en tout cas, tu as plus d'expérience que moi
oui,
dans les acquisitions.
Il y a toujours des retards,
là.
Surtout avec les vacances, ça retarde. Puis, non, c'est un bon point de bien timer, puis aussi d'être très, très clair avec l'autre partie, de dire, écoute, on s'en va là, on s'en va vers les vacances, ça se peut qu'on débat.
Ouais.
Comment tu vois le développement de l'Est de Montréal, parce que pour moi, c'est un grand territoire sous-développé, comme dans n'importe quelle grande ville américaine, tout ce qui est à l'Est est souvent, le East Side est souvent sous-développé en termes de hauteur et densification. On arrive au bout de l'île, on a des problèmes de transport, on s'entend des axes de transport qui vont pouvoir desservir, ça va être naturel dans les prochaines années, je pense que ça va être accéléré par rapport à ce qu'on a vu depuis les années 80. C'est l'ultra-développement en Pointe-Todd, donc tout ce qui est près des transports. Comment est-ce que tu vois, toi, comment est-ce que tu prévois le développement dans l'Est de Montréal, toi qui es là depuis un bon bout de temps?
Oui, c'est sûr que le transport en commun, le transport collectif, là, c'est la clé. Il va y avoir du développement parce qu'il y a des terrains de libre à Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, il y a des terrains de libre. On se disait, il y a quelques années avant la pandémie, quand les gros investisseurs vont avoir terminé avec le centre-ville, ils vont se diriger. Je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés. Parce qu'en tout cas, je suis pas au fait de toutes les transactions et tous les terrains qui restent, mais il y a quand même pas mal, selon l'arrondissement, là, il y a comme possibilité d'une presque 10 000 portes dans l'arrondissement. Donc, le transport collectif est une clé là, pour pouvoir accueillir des entreprises, parce qu'il y a des parcs industriels majeurs dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, là, la pointe de l'île. Montréal-Est a des volontés de développement puis des projets très intéressants, d'essayer de maximiser le développement industriel durable et donc d'augmenter aussi leurs espaces résidentiels. Bon, il y a beaucoup de terres terrains qui sont contaminés puis qui ne seront pas décontaminés pour du résidentiel, mais il y aura des zones tampons entre les deux. Et Pointe-aux-Trembles, bon, moins de possibilités au niveau industriel, mais c'est tout ça doit se mettre ensemble. Puis la clé, on pense, je ne suis pas du seul à penser ça, là, les acteurs que le transport collectif doit vraiment, la décontamination des terrains, mais il y a eu quelque chose de très intéressant qui a été annoncé là, par le gouvernement du Québec là, au sommet de l'Est, organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, là, pour décontaminer des terrains, là, un organisme qui va prendre
prendre en charge,
qui est, donc ça devrait accélérer. Mais encore là, comme je dis, ces terrains-là, ça ne sera pas nécessairement décontaminé pour du résidentiel, puis ça coûte encore plus cher, il faut encore plus décontaminer, mais il y en aura quand même un petit peu. Donc, il y a les clés là, dans comment est-ce que le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal peuvent se mettre ensemble pour... parce que ça se parle depuis des années, là, mais il va falloir que ça se concrétise, là, comme tu dis, rapidement. Ça, c'est pour le développement. Mais moi, je vois beaucoup dans l'Est les acquisitions pour rassurer l'abordabilité de ce qui existe actuellement, pour éviter que dans les statistiques, on dit pour chaque logement qu'on construit, là, on en perd à peu près 15 logements abordables. Fait que c'est clair qu'il faut construire, mais il ne faut pas perdre. Donc, pour ne pas perdre, il faut acquérir.
Il faut acquérir, d'où l'importance de ce que tu disais tantôt, déjà être prêt. C'est intéressant de voir que déjà que tu as cette vision-là, parce que le gouvernement du Québec ne peut pas par lui-même acquérir des logements abordables et sociaux. Donc, il passe par des gens comme vous, expérimentés déjà sur le territoire, qui connaissent déjà les besoins de la clientèle pour le faire. Fait que je trouve que ta vision est bonne. Je trouve que la demande est plus forte que jamais dans l'Est de Montréal. Et on a vu un petit peu, à travers le développement, à travers le temps, les gens partir de l'Est dans Haut-Mâche, Lagomaisonneuve, puis tranquillement, pas vite, s'en aller vers la pointe de l'île. T'sais, s'éloigner parce que les logements étaient moins chers là, mais à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Puis une question de transport pour revenir à Montréal.
Enfin, il y a beaucoup de gens qui font le saut, qui vont en Repentigny, sur la Rive-Nord. D'ailleurs, beaucoup de nos employés viennent de la Rive-Nord.
Okay.
Parce qu'au lieu de traverser tout le Montréal pour s'en venir travailler dans des quartiers centraux ou centre-ville, ils s'arrêtent à Pointe-aux-Trembles. Donc ça nous aide. On est des employés de Pointe-aux-Trembles, bien sûr. Quelques-uns du quartier centraux qui font le chemin inverse, mais on a plusieurs des Mascouche, La Valtrie même, on en a un, de Repentigny, Terrebonne, toutes les... Il y en a beaucoup. C'est très intéressant d'avoir un employeur qui est dans leur domaine, puis qui est juste à l'entrée. Parce que nous, on aime ça à Pointe-aux-Trembles, puis même l'arrondissement a pris cette expression-là. On est le début de Montréal. T'sais. Beaucoup de gens disent « Ah, c'est loin, Pointe-aux-Trembles, c'est loin. » Non, non, on est le début de Montréal. T'sais. L'Est commence là.
Oui, il y a tellement de bassins de population. On le voit juste avec les circulations.
On se pose la question. Beaucoup d'organismes se disent « L'Est termine où? » Ben, nous, en tout cas, ce qui est simple, c'est qu'elle commence là. Ça, est-ce qu'elle termine à Pinneuf, selon l'organisme? Ça commence à finir dessus à Iberville, pour le CIUS, quelque chose. Et la Chambre de commerce, c'est Saint-Laurent. Là, il y a différentes fins de l'Est, mais ça se dit, elle commence où, l'Est? Non, elle commence au bout de l'île. Là, ça, c'est un petit côté chauvin que Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies.
C'est super intéressant parce que tu as la pression qui vient de l'ouest vers l'est, mais tu as aussi, on l'oublie, là, si on sort de l'île de Montréal, puis on regarde tout le hyper développement qui se passe à Mascouche-Terrebonne, où est-ce qu'on fait des logements à 1700, 1800, ces gens-là, bien, nécessairement, vont venir plus chez vous ou vont être éloignés dans la Naudière, qui va être beaucoup trop loin pour une pôle comme pôle économique. François Claveau, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Ça a été vraiment très intéressant que tu nous partages ton expérience. On vous souhaite bonne chance à la société là, dans vos développements, puis on va vous suivre là, à travers les années pour voir... comment est-ce que vous allez développer encore plus le logement social dans l'Est de Montréal?
Ça me fait plaisir. Merci Thierry de nous avoir donné l'opportunité de parler de cette transaction, mais en plus de la Corps-Saint-Bourg, avantage.
Au plaisir. Un grand plaisir. Bonne journée. Au revoir.